ce matin. Vraiment content d'être avec vous, d'apporter la parole de Dieu. La semaine passée était une réunion haute en émotion avec toutes les annonces qui ont pris place. Et la semaine passée, j'ai prêché sur le thème « Me voici, envoie-moi ». L'importance de répondre à l'appel de Dieu. Et alors que je priais, que je me préparais pour la réunion de ce matin, je me disais « Seigneur, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu veux communiquer à ton Église cette semaine? » Et ce que j'avais à cœur, c'est que c'est assez facile de dire un dimanche matin, après une superbe prédication, quand Pasteur Will a la guitare comme ça, de dire « Oh Seigneur, me voici! Envoie-moi! » Il est larmes qui ruissellent sur nos joues. Mais vous savez que répondre à l'appel de Dieu, c'est plus que juste dire « Je suis là ». Ça, c'est juste le début. Ça, c'est la partie facile de répondre à l'appel de Dieu. Me suivez-vous? Faites ça si vous me suivez. C'est la partie facile de dire « Oui, me voici, envoie-moi ». Par la suite, dans la vérité, dans la réalité de répondre à l'appel de Dieu, on rencontre toujours des obstacles et des défis. C'est jamais si facile que ça. OK, je suis désolé de péter la balloune de certains dans ce lieu. C'est jamais si facile que ça. Et aujourd'hui, ce que j'avais à cœur de faire avec vous ce matin, c'est de nous aider, de nous équiper à persévérer dans l'appel de Dieu malgré les obstacles qui vont se dresser devant nous. À persévérer, à dire « Me voici, envoie-moi », même quand ça va pas super bien. Même quand il y a des conflits, même quand il y a des difficultés. Et ce matin, ce qu'on va faire ensemble, on va regarder à l'appel d'un homme dans la parole de Dieu que vous connaissez bien, qui s'appelle Moïse. Et on va regarder quelques éléments dans la vie de cet homme et comment il a dû surmonter certains obstacles pour répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce matin, vous là? OK, super. On va commencer par lire comment Moïse a été appelé à servir Dieu dans Exode 3, à partir du verset 1. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour le regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse! » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Dieu dit, notez bien ceci, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans le bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Verset 9. C'est maintenant les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et ici, on a un moment spécial dans la Bible, un moment connu quand même dans la Bible, où Moïse est là, il y a un buisson qui s'enflamme, et là, Moïse s'approche pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Le buisson s'enflamme, mais il continue à brûler. Et là, Dieu se fait connaître, Dieu parle à travers ce phénomène spectaculaire, et Dieu va dire à Moïse, « J'ai entendu la douleur de mon peuple qui est esclave en Égypte. J'ai entendu leurs cris. Et Moïse, je t'envoie pour t'adresser au Pharaon afin que mon peuple soit libéré. » Quel moment incroyable dans la Bible. Quel moment fort. Et la première chose que j'aimerais relever aujourd'hui est la suivante. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, ça implique toujours la libération. Dieu nous appelle à être des agents de libération. Vous savez, on vit dans une société qui majoritairement ne connaît pas Jésus, ne connaît pas Dieu. Ils sont dans les ténèbres sans Jésus, sans cette vérité extraordinaire que nous connaissons, Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons de Jésus, comme on a vu la semaine passée, et que nous ne sommes pas des disciples secrets, mais des disciples engagés pour le Seigneur, et qu'on parle de lui, on permet à des gens d'être libérés, d'être transformés, d'être sauvés, et c'est notre appel. C'est notre appel à chacun d'entre nous. Voici comment Jésus décrit son appel dans Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » C'est notre appel ce matin. Un appel, c'est un appel à la libération, un appel au sauvetage spirituel des gens qui nous entourent. Vous savez, lorsque Moïse a eu cette vision, il avait 80 ans. Mais si on recule 40 ans en arrière, si on prend la DeLorean de Back to the Future avec Marty et le convecteur temporel, et qu'on retourne 40 ans avant, on voit une scène dans la Bible où Moïse avait déjà cet appel, déjà ce cœur de libérateur, mais où il a fait une gaffe, où il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. On lit ensemble dans Exode 2, à partir du verset 11. « Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères. Il vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés. Il vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. Le Pharaon a appris ce qui s'était passé. Il cherche à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian et s'arrêta près d'un puits. » Moïse avait déjà cet appel, ce désir d'être un libérateur, mais là, il le fait selon ses propres moyens. Il le fait dans le mauvais timing, il le fait sans Dieu, et il a tué un homme, un Égyptien comme ça, et par la suite, il a fui dans le désert pendant 40 ans, comme on va le voir dans un instant. Et as-tu déjà vécu de désirer servir Dieu, mais de faire des gaffes? D'avoir des bonnes intentions, mais de faire des erreurs, d'avoir désiré servir Dieu, mais en comptant sur tes talents, sur tes propres forces et sans t'appuyer sur lui. As-tu déjà vécu que les choses tournent mal quand tu essaies de servir Dieu? Certains, as-tu déjà connu des douleurs, des souffrances, des déceptions profondes alors que tu voulais bien faire? Peut-être que tu as été blessé par des paroles, par un manque de respect, par un manque de confiance. La vérité et que servir Dieu n'est pas toujours facile. Nous devons apprendre à nous appuyer sur Dieu en tout temps et à dépendre de lui en tout temps. Servir Dieu sans l'aide de Dieu est impossible. Comprenez-vous ça? Servir Dieu sans son aide, c'est impossible. Ça ne marche pas. On est condamné à échouer. On est condamné à faire des erreurs graves parfois. On a besoin de Dieu, de l'aide de Dieu, de dépendre de Dieu pour le servir et pour être un agent de libération. Nous avons besoin de Dieu pour servir Dieu. Et aujourd'hui, on veut demander son aide, son soutien, sa sagesse. Proverbe 3:5 nous dit ceci, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Je veux m'appuyer sur Dieu de tout mon cœur. Je veux apprendre à surmonter les obstacles qui se dresse devant moi, à surmonter les échecs que je peux vivre parfois en voulant servir le Seigneur. » Quand j'étais très jeune pasteur, j'ai commencé à peine, j'avais même pas encore le titre de pasteur, j'avais 17 ans, et on m'a invité à prêcher dans un groupe jeunesse, et une petite jeunesse qui était pas trop loin de chez nous, et j'ai accepté avec joie, et pendant que je me préparais le jour même, j'ai commencé à me sentir pas bien dedans. Oh, je commençais à me sentir un peu barbouillé. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, j'y vais, puis on verra bien ce qui va arriver. Donc, je me rends à la jeunesse, une petite jeunesse. La moitié des jeunes étaient sur le stage comme musiciens. L'autre 8 jeunes étaient dans la première rangée comme ça avec moi. Et là, c'est un groupe jeunesse, une quinzaine, vingtaine de personnes. Et là, la louange se passe et bientôt, je sais que c'est mon heure qui arrive, mon heure qui approche. Je vais prêcher bientôt. Et c'est stressant quand même prêcher devant une foule comme ça, là. Et là, je m'en vais, j'ai 17 ans. Et là, je monte sur l'estrade pour prêcher. J'avais préparé un message, tout ça. Et là, mon ventre se met à être barbouillé un peu plus encore. Je commence à me sentir pas bien. J'essaie de prêcher, je parle de Jésus, mais là, je me sens pas bien, là. Dans le sens que je me sens vraiment pas bien. Et là, ce qui ne devrait jamais arriver à un pasteur m'est arrivé. Ceux qui n'ont pas compris, ça a sorti pendant que je prêchais. Donc, vous riez, mais c'était vraiment pas drôle. Et je me suis taché. Donc là, pendant que je prêche, j'arrête de prêcher. Et je me rends aux toilettes, j'essaie de me nettoyer. Rien à faire, il faut que je parte. Il faut que je parte, je suis trop pas présentable. Il faut que je m'en aille. Et cette soirée-là, c'est terminé comme ça. Jésus passe à la jeunesse. Sorry. Et ça a été un moment assez spécial dans ma vie. Ça fait une belle illustration, oui, je sais. Mais sur le coup, je comprenais pas trop ce qui se passait. Sur le coup, ça m'a ébranlé un peu. Sur le coup aussi, ça fait quand même, c'est humiliant quand même de vivre un moment comme ça. Imaginez le pasteur qui vit ça devant des gens. Ça a été quand même humiliant. Puis quand on sert le Seigneur, on vit toutes sortes d'obstacles. Des fois, ça peut être de ce style-là. Des fois, c'est plus blessant que ça encore. Des gens qui parlent contre nous, des choses difficiles. Il y a toujours, c'est jamais un long fleuve tranquille de servir Jésus. Peu importe dans quel ministère, peu importe comment tu sers le Seigneur, il va toujours y avoir des obstacles, des échecs, des difficultés. Et la question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu vas persévérer malgré tout ça? Est-ce que tu vas continuer même quand c'est pas facile? Parce que comme j'ai dit au début, c'est facile de dire « Me voici, envoie-moi! » Mais quand tu vis des moments, des épreuves, des difficultés, c'est là où il faut continuer à dire « Me voici, envoie-moi! » Malgré tout. Et où on apprend à s'appuyer sur Dieu, à lui faire confiance, à s'appuyer sur lui malgré les défis, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les douleurs qu'on peut vivre. Êtes-vous là ce matin? Apprendre à s'appuyer sur lui. J'aimerais aussi vous encourager aujourd'hui à servir Dieu, à continuer de servir Dieu malgré les déserts. Ah, ce mot-là, le désert. Quand je suis allé en Arizona il y a quelques années de ça, et c'est spécial un désert, c'est beau un désert, des cactus, il y a très peu de plantes, c'est assez spécial. Et il y a plein de sortes de déserts sur la planète. Mais quand on parle de désert dans la Bible, c'est un peu moins intéressant ou agréable. Exode 17:7 nous dit « Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. » Et dans le fond, entre le départ d'Égypte et son retour d'Égypte, il a vécu 40 ans dans le désert. Imaginez-vous, c'est Moïse. Il est appelé à être un libérateur. Il est appelé à libérer son peuple. 2 millions de personnes esclaves en Égypte. Il est appelé à être un libérateur, mais à la place de ça, il vit 40 ans dans un désert. Ça peut sembler comme s'il est loin de son appel, comme s'il est loin de sa destinée, comme si ce qu'il devrait faire, il ne le fait pas. Ça ne se passe pas. Ça n'a pas lieu. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu utilise ce moment d'attente pour nous préparer et pour changer nos cœurs et changer notre caractère. Combien ici vous avez besoin d'un coup de main de Dieu avec votre caractère? Laissez-moi avoir une main comme ça. Il y a des gens, vous mettez la main, vous êtes très honnête. Il y a des gens, vous êtes plus comme ça. Tu as besoin toi aussi, OK? Tu stresses de même, tu as besoin toi avec. Si tu n'as pas levé la main, tu as besoin toi aussi. Les moments de désert dans la vie chrétienne sont normaux. On voit dans la Bible qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, plusieurs femmes de Dieu, qui avant d'entrer dans l'accomplissement de leur appel, ils ont eu des moments de désert. Des moments de préparation, des moments de formation, des moments où ils n'accomplissent pas ce qu'ils sont appelés à faire, où ils vivent des choses difficiles, des épreuves, des douleurs, des moments d'attente, de maladie, qui tout ça, lorsque tu as un cœur ouvert, Dieu te prépare pour entrer dans ton appel. Dieu te prépare pour entrer dans ce qu'il veut faire avec ta vie. C'est là qu'on apprend à persévérer. C'est là qu'on apprend de continuer de prier, de servir comme on peut, de s'accrocher à ses promesses. Je fais une parenthèse avant de continuer sur les déserts. J'ai une histoire pour vous. Mais juste avant, il existe un autre type de désert qui n'est pas vraiment un désert. C'est où tu ne sers pas Dieu, où tu ne fais pas ce que tu es appelé à faire, pas parce que tu es dans un désert spirituel, mais parce que tu as fait des mauvais choix dans ta vie. Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Parce que tu n'es pas en règle avec Dieu. Et si tu vis ce genre de désert-là aujourd'hui, tu peux en sortir par la repentance, en te rapprochant de Dieu, en remettant ta vie en lignée avec le Seigneur. Et je reviens à mon histoire. Comme vous savez, j'ai été pasteur avant d'être ici dans Charlevoix. J'ai été là-bas 10 ans et pasteur 7 ans de l'Église, l'Église qu'on a vu un peu tantôt. Et ça a été des années où j'ai vécu des belles choses avec Dieu, des actions de Dieu, des mouvements de Dieu, des conversions. Mais ça a été aussi des moments de désert intense dans ma vie. Je m'ouvre à vous ce matin, parce que je sais que certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître. Des moments de remise en question. Des moments où je me disais, « Mais, je suis vraiment appelé à servir Dieu, moi? Mais, je suis vraiment appelé à prêcher? » Il me semble que ça avance pas vraiment. Il me semble qu'il y a peu de fruits. J'ai aussi vécu des moments où je me sentais déprimé. Des longs moments, ça n'a pas été toujours comme ça, mais des moments où je me sentais, où je vivais des périodes de noirceur. Combien ici vous connaissez, vous savez c'est quoi une période de noirceur? Vous savez c'est quoi une période où vous ne vous sentez pas bien, où vous vous sentez vraiment pas bien, où je me sentais seul aussi parfois. Et durant ces années-là que j'étais là-bas comme pasteur et que j'avais ces doutes, ces remises en question, ce moment de désert spirituel, même si je continuais à servir Dieu, même si je continuais à prier, le Seigneur est venu changer des choses en moi. Le Seigneur est venu m'apprendre des choses que je ne pouvais pas apprendre autrement. Vous savez, il y a des choses qu'on peut apprendre dans les livres, puis il y en a d'autres qu'on apprend juste dans la vraie vie. Faites ça si vous savez que c'est vrai. Hein? On peut apprendre une leçon dans un livre, mais parfois en passant par certaines épreuves, Dieu fait quelque chose en nous. Dieu fait une transformation en nous. Dieu a travaillé dans ma vie la discipline spirituelle. Dieu a développé dans ma vie mon endurance. Dieu a développé dans ma vie mon caractère. Je le sais, il n'est pas fini. Pas besoin de le dire. Il n'est pas fini de modifier ça, de transformer ça encore. J'ai aussi appris que j'avais de la valeur. Peu importe le fruit spirituel de mon ministère. Que j'aie une église de 30 personnes, une église de 400 personnes, aux yeux de Dieu, j'ai la même valeur. Et ça, c'est bon pour vous et pour nous dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Peu importe que tu fasses des petites choses pour Dieu, des grandes choses pour Dieu, alors que tu le sers, tu as une valeur inestimable à ses yeux. Tu es précieux. Est-ce que je peux entendre un amen? Et durant ces 7 années dans Charlevoix, Dieu me préparait. Dieu me préparait à quoi? Dieu me préparait à Drummondville. Vous êtes là? Nos déserts actuels nous préparent à entrer dans les autres phases de nos vies et de service pour Dieu. Et en ce moment, avec vous, Dieu me prépare à une autre phase, comme on a vu ensemble la semaine dernière. Dieu fait cette œuvre en nous de transformation, de préparation. Il faut comprendre que les déserts spirituels sont normaux. Et pendant ces périodes-là, il faut dire, « Seigneur, change ce que tu veux en moi. Seigneur, je reste accroché à toi. Seigneur, je ne lâche pas. J'ai dit, me voici, envoie-moi, mais je le redis encore malgré les déserts. » Est-ce que je peux entendre un quelque chose? Non, j'ai dit un quelque chose. OK, d'accord, merci. Ce qui est spécial, lorsque Dieu a appelé Moïse, j'aime la réponse de Moïse. Il n'a pas dit comme le prophète Ésaïe. Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Moïse, on va lire ce qu'il dit. C'est assez spécial. Verset 11, hein, le buisson, Dieu parle dans le buisson. Et là, on va voir comment Moïse va répondre à Dieu après le buisson ardent, Dieu qui se révèle à lui, waouh, waouh, waouh. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? » Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Chapitre 4. Moïse répondit, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. T'es en train de dire, ils ne vont pas me croire, là, Dieu, là, que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Là, Dieu va lui répondre. L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec toi, avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Verset 13. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » My! Méchante réponse de Moïse! Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans ton cœur, etc., etc., etc. » Moïse a dit, lorsque Dieu l'a appelé, « Qui suis-je, moi? » Il a dit aussi, « Mais je vais leur dire quoi? » C'est quoi ton nom? Il y avait plein de questions. Ça spinait dans sa tête. Il a dit également, ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Hein? Un peu négatif quand même. Il va dire, ah, Seigneur, je ne suis pas doué. J'ai de la misère à parler. Je bégaye. J'ai de la misère à parler. Il va finir par dire, Seigneur, envoie donc quelqu'un d'autre. Ça, c'est le grand Moïse là, qu'on voit dans le film là, avec le bâton puis la mer qui saute. Puis, oh! La chorale de 2 millions de personnes qui chantent en arrière. Loué soit l'Éternel! Oh! Non, non. Le vrai Moïse, là, on vient de le découvrir ensemble. C'est un homme, comme moi et vous, insécure. Insécure, puis il y a des objections pour répondre à l'appel de Dieu. Et il a dû surmonter ça pour répondre à l'appel de Dieu. Je ne sais pas si ça vous parle ce matin, moi, ça me parle. Chacun d'entre nous, pour entrer dans ce que Dieu a pour nous, dans nos vies, on a besoin d'adresser les voix internes, nos pensées, ce qui se passe en dedans de nous. Peut-être que ça ressemble à Moïse. Peut-être que c'est, ah Seigneur, envoie donc quelqu'un d'autre. Ah, je suis pas assez bon. Ah, je fais trop d'erreurs. Ah, j'ai échoué quand j'ai essayé la première fois. Seigneur, ça marchera pas. J'ai trop de péchés dans ma vie. Mon passé me disqualifie. J'ai vu une crise personnelle dans ma famille qui me disqualifie. J'ai essayé sans trop de succès. C'est trop douloureux. J'ai pas le temps. Faut que je m'occupe de mes enfants. Les chrétiens sont trop ingrats. Et là, on se donne des excuses où on a ce combat interne pour ne pas répondre à l'appel que Dieu place sur nos vies. Aujourd'hui, je t'invite à dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et quand les voix dans ta tête vont monter comme ça, à les combattre. À t'approcher de Dieu et à dire non. Le Seigneur va être avec moi, hein? Il va m'aider. Le Seigneur m'a appelé. Savais-tu, qui ici croit en Dieu? Lève ta main si tu crois en Dieu. Fièrement, OK. Savais-tu que, bon, ceux qui n'ont pas levé la main, on va se parler après. Savais-tu que Dieu croit aussi en toi? Dieu croit en toi. Lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas juste tes erreurs, puis tes péchés, puis tes difficultés. Dieu voit le potentiel qu'il a lui-même mis dans ta vie. Dieu voit tes dons. Dieu voit tes talents. Dieu t'aime. Dieu espère le mieux pour ta vie. Dieu a des pensées positives à ton égard. Dieu croit en toi. Il t'a appelé. Tu peux répondre à son appel. Tu peux dire, me voici, envoie-moi. Pas parce que tu es assez hot pour répondre, parce que Dieu t'a appelé et lui-même va te préparer, te former et t'envoyer pour accomplir sa mission. Tu dois dire quelque chose. Dieu croit en toi. Je vous parlais de Charlevoix tantôt, je rebondis là-dessus. Quand j'étais pasteur là-bas, j'avais une habitude. Tout le monde qui venait pour nous aider, pour prêcher, pour faire la louange, Je les assoyais devant moi et je leur faisais le speech. Le speech solennel. Ça ressemblait à ça. Sais-tu quoi? Vivre dans Charlevoix, c'est extraordinaire. Il y a des superbes écoles pour les enfants. Les paysages sont magnifiques. C'est fantastique. Aurais-tu envie de déménager pour venir m'aider avec l'Église, avec, c'est pas une nouvelle vie d'antan, avec l'Église Altitude? Viens donc m'aider. J'ai fait le speech à des dizaines et des dizaines et des dizaines de pasteurs, de worship leaders, musiciens, etc., dans mon salon. Et la plupart du temps, ça finissait par « Ah, oh, on va prier là-dessus. » Indice comme ça, là, t'es nouveau chrétien, quelqu'un dit « va prier là-dessus », ça veut sûrement dire non. « Ah, oh, prie là-dessus. » OK. À un moment donné, j'ai fait le speech à un jeune couple qui était là devant moi, tout jeune. Je l'avais fait des dizaines et des dizaines de fois, ce speech-là. Et eux, au lieu de dire « je vais prier là-dessus », ouais, je pense qu'ils ont dit ça. Ils ont dit « je vais prier là-dessus », mais eux ont vraiment prié là-dessus. Puis Dieu a parlé à leur cœur. Puis ils me sont revenus puis ils m'ont dit « sais-tu quoi? » Ça nous a touchés, ça nous a parlé, puis on va déménager. On va venir t'aider. C'est un jeune musicien qui aspirait à jouer de la musique pour Jésus. Puis l'autre était aux études pour devenir professeur. Puis quand ils m'ont dit qu'il viendrait, ça a pris 2 ans avant qu'il déménage, parce qu'elle a fini son bac pour devenir prof. Par la suite, ils sont déménagés. Puis non seulement ils sont déménagés, ils sont venus avec les parents de la fille, qui est un pasteur de 25 ans d'expérience, et avec sa femme, un couple formidable. Et ce couple-là ne se voyait pas du tout pasteur. Il déménageait juste pour nous aider. Mais Dieu, lui, voyait autre chose dans ce couple-là qu'un genre de gratuit de guitare puis une prof. Dieu voyait un couple pastoral extraordinaire. Aujourd'hui, c'est Julien et Élise. Ils sont pasteurs de Nouvelle Vie Charlevoix. Ils sont déménagés. Ils ont reçu l'appel. Ils ont été chamboulés, transformés, formés, préparés dans le désert, tout ça. Ils sont encore dedans parfois. Aujourd'hui, ils servent Dieu, malgré leurs insécurités, malgré, je ne dis pas que tout le monde ici va devenir pasteur, il y a plein de façons de servir Dieu, bien entendu. Mais dans leur cas, à eux, c'est ce qui est arrivé. Ils sont devenus pasteurs d'une église et aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Ils ont répondu à l'appel et Dieu voyait quelque chose en eux qu'eux-mêmes ne voyaient pas. Dieu voit quelque chose en toi que toi, tu ne vois pas. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à ce que Dieu veut te dire, à son chemin, à comment il désire te conduire. Quand on sert le Seigneur, on embarque dans un combat aussi, un combat spirituel. Vous savez, Dieu existe, Satan existe aussi, l'ennemi de nos âmes qui veut nous ralentir, nous détruire, nous arrêter. Et dans le texte qu'on voit dans Exode, on voit que le pharaon représente l'ennemi qui ne veut pas laisser partir le peuple et tout. Et je vais aller tout de suite au 1 Pierre 5-7, qui nous décrit un peu quel genre d'attitude l'ennemi a envers nous. Ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend bien soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et vos sœurs dans le monde. » Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. C'est important de comprendre que quand on sert Jésus, quand on répond à l'appel, on embarque dans une dynamique de guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle-là ne se gagne pas par des armes humaines, elle se gagne par les armes spirituelles. Il y a des textes là-dessus dans la parole de Dieu. On n'ira pas là-dedans aujourd'hui, mais je vais aller dans une arme spirituelle aujourd'hui en terminant. J'ai invité les musiciens à revenir. Il y a une arme spirituelle que je veux, sur laquelle je veux insister en terminant cette réunion ce matin. Et on la voit dans Colossiens 4 à partir du verset 12. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Une des armes les plus puissantes que le chrétien a, c'est la prière. C'est de s'arrêter et de s'approcher de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses retenir cette information-là, que tu puisses l'intégrer dans ta vie. L'une des armes les plus puissantes que tu as dans ta vie, c'est la prière. Je sais que c'est simple. Je sais que ce n'est pas révolutionnaire comme pensée. Mais si seulement chaque personne dans ce lieu aujourd'hui appliquait ce conseil-là, notre Église serait révolutionnée fois deux, fois mille. Si chaque chrétien ici comprenait que ça se passe à genoux dans la prière, c'est là qu'on combat. C'est là qu'on gagne les batailles, les victoires. Vous savez, quand on fait ceci, quand tu fais ça comme ça, que tu pries, que tu t'approches du Seigneur spirituellement, ce qui arrive, c'est que tu as l'air d'être ça. On devient puissant. On devient capable de combattre n'importe quel ennemi qui se dresse devant nous, n'importe quelle difficulté qui se dresse devant nous. Même un gars avec un gant avec des roches dessus de couleur. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle aussi, venez me voir après, je vais vous expliquer. Dieu veut nous donner de devenir victorieux dans les combats de la vie. Mais ça, ça passe vraiment par la prière. Tu veux connaître l'appel de Dieu sur ta vie? Va dans la prière. Tu veux apprendre à t'appuyer sur Dieu dans ton service pour lui? Va dans la prière. Tu as été blessé, tu as été déçu, tu as fait des erreurs, manque de pardon dans ta vie. Va dans la prière. Tu vis un désert spirituel? Va dans la prière. Tu as besoin de surmonter des objectifs, ou plutôt des insécurités internes comme Moïse avait à le faire. Va dans la prière. Tu vis un combat spirituel? Va dans la prière. Vous savez, c'est pas tant la prière qui change tout que le Jésus que tu rencontres dans la prière qui change tout. Parce que tu peux prier religieusement, tu peux prier un arbre, un autre Dieu, n'importe quoi. Ce qui fait la différence, c'est pas tant la prière, c'est Jésus. C'est l'objet de nos prières. C'est celui qu'on rencontre dans la prière. Et aujourd'hui, ma prière, mon désir pour nous, c'est qu'on puisse être renouvelé dans cette arme que nous possédons, peut-être que tu as laissé de côté cette arme-là, de t'approcher de Dieu à chaque jour de ta vie, de prier, d'invoquer son nom, de lui présenter tes besoins, de lui présenter tes problèmes, tes défis, tes soucis, tes amis, ta famille, les gens qui t'entourent. Retourne aux pieds du Seigneur. Retourne dans sa présence. Ce qui est spécial dans notre texte, c'est que, comme vous savez, après une coupole de plaies d'Égypte, Dieu a libéré son peuple. Dieu a libéré son peuple. Et Dieu veut encore libérer son peuple aujourd'hui. Oui, il y aurait des combats, des défis, des difficultés, de l'opposition, des déserts, mais Dieu est victorieux. Dieu vous a sauvé et Dieu veut sauver une multitude nombreuse aussi. Ici à Drummondville, partout au Québec. Est-ce qu'on va juste répondre à l'appel un dimanche avec les larmes ou on va vraiment persévérer dans l'appel de Dieu? C'est ce que je t'invite à faire ce matin. Je t'invite à persévérer. On a vu que nous sommes appelés à la libération. On a vu aussi d'apprendre à nous appuyer sur Dieu, de continuer malgré les déserts, de surmonter nos objections et insécurités. On a vu qu'il existait un combat spirituel, mais qu'avec Dieu, nous sommes victorieux en sa présence par la prière. En terminant ce matin, je t'invite à fermer tes yeux un instant, à te recueillir, pencher ta tête un instant. On va prendre un temps comme Église dans la présence de Dieu, dans la prière. Et ce matin, juste avant qu'on chante, je voudrais te lancer cette invitation. Peut-être qu'il y a des gens dans ce lieu que t'es appelé à servir Dieu, mais tu t'étais découragé. Tu t'étais découragé à cause de ta propre vie, à cause de déserts, à cause des moments d'attente, à cause de circonstances hors de ton contrôle peut-être. Et ce matin, j'aimerais que Dieu puisse réveiller la flamme en toi.
réveiller la flamme dans ton cœur pour le servir à nouveau. Réveiller une flamme en toi qui s'était éteinte ou presque éteinte. Si tu es ici ce matin et que tu as besoin que Dieu ravive la flamme en toi par son esprit, lève ta main devant lui et dis, Seigneur, j'ai besoin que tu ravives la flamme. J'ai besoin que tu ravives la flamme dans mon cœur. Pour différentes raisons, la flamme s'était éteinte ou diminuée, mais j'ai besoin que tu la ravives. Et alors que tu lèves ta main et que tu tournes ton cœur vers Jésus, Jésus veut te redonner espoir, Jésus veut te conduire, te guérir, te guider. Ma deuxième invitation ce matin serait pour des gens dans ce lieu qui voudraient dire, Seigneur, moi je veux combattre dans la prière à nouveau. Je veux retrouver une vie ou trouver pour la première fois une vie où je m'approche de Dieu par la prière. Comme Épaphras, je combats dans la prière. Alors, si c'est ton désir de grandir dans ta vie de prière, lève ta main devant Dieu et dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à grandir dans la prière. Moi, je suis le premier à lever ma main. Seigneur, aide-moi à grandir dans la prière. Aide-moi à devenir comme cet homme qui combattait dans la prière. Lève ta main devant Dieu et dis, Seigneur, je veux grandir dans ma vie de prière. Je veux m'approcher de toi. Je vais apprendre la persévérance. Ce qu'on va faire en terminant, j'ai invité toute l'Église, si vous voulez bien, on va se lever ensemble. Et on va chanter ce chant, un chant qui est totalement approprié avec le message. Et je t'invite à prendre quelques minutes avec Jésus. Prends quelques minutes cœur à cœur avec Jésus pour t'approcher de lui et lui remettre ton cœur, lui remettre ta situation, lui remettre ta vie, lui remettre ton appel. Approche-toi de Dieu ce matin. Approche-toi du Seigneur ce matin.